pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Donc avec Dom, on voulait proposer un débat sur l'extractivisme, au nom de la transition écologique, parce que c'est ça qu'on entend beaucoup, on va développer un petit peu, et parler des luttes en France et ailleurs contre les mines de lithium, et pas uniquement. Moi, je vais commencer par faire un petit récap un petit peu des dernières fermetures de mines, de celles qui sont toujours actives, des arguments utilisés par les miniers, de ceux qu'on utilise dans la lutte, et puis Dom parlera surtout des châssis, peut-être pas que. Ouais. Donc pour démarrer directement dans le vif, l'abandon des dernières mines en France, c'est pas si vieux. La mine de tungstène de Salaud, donc moi je suis dans l'assemblée contre les mines en Ariège, contre la mine de Salaud, elle a fermé en 1983, c'était une mine de tungstène. Celle qui concerne l'exploitation d'or en Haute-Vienne, elle a fermé en 2002. La dernière mine d'uranium en France, elle a fermé en 2001. Et l'exploitation d'uranium a cessé totalement en France en 2011, à l'Odève. C'est vraiment, vraiment pas si vieux. Et la mine d'or de Salsigne, qui a pas mal fait parler d'elle ces derniers temps pour les pollutions sanitaires, environnementales et sanitaires, a fermé, elle, en 2004. Par contre, en France, il y a toujours des mines actives. Les mines d'or alluvionnaires en Guyane, celle de nickel en Nouvelle-Calédonie, qui représente 25% des réserves mondiales, celle d'andalousite à Glomel en Bretagne, qui est qualifiée comme carrière mais qui fonctionne en fait comme une mine vu la qualité des déchets produits qui sont des déchets hyper toxiques et des poussières hyper toxiques. Celle de bauxite aluminium dans l'Hérault fonctionne toujours, et puis il y a une exploitation de sel qui est nommée mine à Salis de Béarn et une de gaz à Lac dans le Béarn. Je vais faire à peu près le tour de ce qui est toujours actif. Les anciennes mines métalliques, donc à part celles, les quelques zones que j'ai listées là qui sont actives, ont été abandonnées dans les années 2000 parce que les teneurs qu'elles avaient atteintes étaient trop faibles pour être toujours rentables. Pour donner un petit exemple, quand la mine d'or du Bournex en Haute-Vienne est ouverte, c'est plusieurs centaines de grammes d'or par tonne qu'on exploite pendant une vingtaine d'années, et ça va décroître, et elle est abandonnée quand on atteint 2 grammes d'or par tonne. Là, en ce moment, ils cherchent à réouvrir des mines autour du Bournex, et ils considèrent qu'entre 5 et 8 grammes, ce sera rentable. Si tant est qu'on en parlera après, qu'ils arrivent jusqu'à l'exploitation. Mais pour celle de Salaud, c'est les mêmes histoires, hein, diminution de la teneur et concurrence avec la Chine, qui fait qu'elle ferme en 83, et aussi le fait que la France n'a jamais maîtrisé la totalité des chaînes de production du métal final qu'on souhaitait obtenir. Et notamment pour ce qui était du tungstène, c'était exporté en Chine pour la fin de la production, alors que la Chine maîtrisait la totalité de la chaîne, ce qui lui a donné un avantage à l'époque. Pour parler de l'après-mine, une fois fermées, les mines, c'est bon, des catastrophes environnementales qui tournent toujours autour du stockage des déchets, qui sont des déchets éternels. Les pollutions, elles sont soit éoliennes, c'est le vent qui va emporter une partie des poussières autour. Alors ça va être, par exemple, pendant l'activité, Donc, n'importe quelle mine, à Glomel, c'est le cas. C'est la lutte qui mène en ce moment contre l'extension de Glomel. C'est en particulier parce que ça serait ouvrir une autre fosse et augmenter encore l'extension des poussières. C'est les poussières, c'est les stockages de déchets dits stériles, miniers, qu'on exploite pour atteindre le minerai, qui, eux, vont générer du drainage minier acide, donc générer une pollution des eaux locales qui va s'exporter dans tout un bassin versant. Et puis ensuite, c'est les stockages de déchets transformés, une fois qu'on a fait une partie du traitement ou tout le traitement, en flocculant le métal avec d'autres choses sympas du genre le cyanure, et on se retrouve avec des lacs de déchets dont on ne sait pas quoi faire, à part les dessécher un peu, les stocker à un endroit. À titre d'exemple, encore une fois, pour la Haute-Vienne, le traitement des eaux chargées en arsenic qui s'écoulent du terril de l'ancienne mine dure depuis 23 ans, depuis sa fermeture. C'est 2000 mètres cubes d'eau qui sont retraités chaque semaine et qui partent in fine dans le cours de l'île une fois qu'on a fait descendre la contamination à l'arsenic à un niveau qu'on juge suffisant. Ce qui n'est pas rien, qui n'est pas neutre. Et ça, ça dure depuis 23 ans. Et là, c'est retraité. S'il n'y a pas de rupture de digue, à Salsigne, c'est pas retraité. Ça arrive directement dans les rivières. Et voilà, d'où le scandale qui est souligné par les riverains. Donc, je parlais de Salsigne. Il y a aussi une lutte autour de Saint-Félix-de-Payère, dans le Gard, qui concerne aussi la santé des habitants. C'est-à-dire que quand on a étudié les impacts de l'après-mine en France dans les années 2000, tous ces vieux sites ont été inventoriés et les habitants ont reçu des petites lettres sympas de la préfecture qui disaient « Veuillez s'il vous plaît ne pas recevoir vos enfants plus de 3 jours par an chez vous parce qu'ils risquent des surmortalités par cancer. Veuillez utiliser des aspirateurs à microfiltration de particules parce que le balai c'est dangereux, etc. » Ce genre de petites recommandations qui a fait flipper les gens. Donc ça concerne Saint-Félix-de-Payère, mais aussi plus près de chez nous, Villefranche-de-Rouergue. Voilà. Pas mal de zones en fait dans les anciens massifs miniers, parfois sur des exploitations très anciennes. Celle de Villefranche-de-Rouergue, l'exploitation, elle est médiévale. Donc il n'y a pas de mise en cause là du capitalisme, il y a juste des anciennes pollutions qui n'ont jamais été gérées, du zinc et du plomb qui sont dans les jardins des gens et qui sont déflationnés et qui s'accumulent sur d'autres endroits où pèsent les brebis et en fait tout le monde bouffe de l'arsenic et du plomb. Voilà. Tu voulais parler de la mine de tungstène de l'Allier ?
Oui, ben c'est pareil, c'est pollué à l'arsenic et au plomb. Le plomb, c'est plutôt dû au radon qui s'est échappé de la mine de tungstène. Parce que selon quand le radon s'écoule, c'est plus lourd que l'air, donc ça coule un petit peu comme l'eau. Et il y a une modification à chaque fois, je ne sais plus les termes exacts au niveau technique, mais à chaque fois, le radon se transforme en un autre métal, pour arriver à un plomb non radioactif. Mais entre-temps, il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées. Et le plomb qu'on a actuellement, c'est le plomb qu'on considère non radioactif, mais où on attrape le saturnisme, quoi. Et l'arsenic, il y a aussi un petit peu d'amiante, mais ça, ils n'en parlent pas trop. Un petit peu d'uranium, ils n'en parlent pas trop non plus. Et... ça fait, je ne sais plus, je crois que c'est 40 ans ou 50 ans que la mine de tungstène a été arrêtée. Et depuis toute cette période, il y a les gens qui cultivent leur jardin et qui bouffent les légumes et tout, à l'arsenic et au plomb, ils n'ont jamais été prévenus, quoi. Les seuls trucs qu'ils ont pu recevoir, parce qu'il y a eu une étude de Géodéris qui a relevé les pollutions des anciennes mines, dont celle des Chassières, où là, ils se sont rendus compte que les taux d'arsenic et de plomb étaient excessivement élevés. Et donc, la préfecture, le seul truc qu'ils ont dit en mairie, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont même pas donné au public, en disant, bon, bah, si vos enfants jouent dans le jardin, il faut qu'ils se lavent les mains en rentrant, et un petit peu pareil, il ne faut pas balayer parce qu'il y a des poussières. Et voilà, c'est tout ce qu'ils ont fait. Et même quand on se balade, il y a ceux qui habitent dans l'Allier, qui étaient gamins pendant cette mine, ils allaient se baigner dans les lacs où ils rebalançaient les trucs, et personne ne leur disait rien, quoi, tu vois. Et donc c'est un petit peu ça l'après-mine, quoi. Parce que quand on nous dit, là, ils sont en train de nous vendre les chassières avec le lithium, oui, mais vous inquiétez pas, il y aura un suivi après-mine, on va tout remettre en état et tout, avec des petites fleurs et tout et tout. Tous les métaux lourds qui seront dans les stériles et tout. parce qu'ils vont reboucher, une fois qu'ils vont faire les galeries pour la mine, ils vont sortir les minerais, enfin les roches, ils vont concasser en farine pour l'envoyer quelque part, et après ils vont remettre dans les galeries une partie des roches qu'ils auront en stock, avec du ciment, parce que comme c'est de la farine, ça ne sera plus du tout. Donc ils vont remettre, je ne sais plus, c'est 50 000 tonnes de ciment chaque année pour reboucher leurs trous qu'ils ont fait. Et il y a toute une partie, parce que quand on parle de foisonnement, c'est pas rien sur la roche, c'est 70%. C'est-à-dire quand tu retires un mètre cube de roche, tu as un mètre cube 7 que tu sors. Quoi.
Peut-être on en parle après dans les promesses de minier.
J'étais parti.
Donc juste avant que les chassières soient à ce stade-là, il y a eu plein de choses qui se sont passées là après la fermeture des mines en 2004 pour les dernières. Il y a une première vague de permis en fait qui a été lancée en 2014 avec des collectifs qui se sont montés, des procédures juridiques qui ont traîné jusqu'en 2020-21, voire dure encore, parce que pour ce qui est du permis de Salo, la mine en Ariège, si le permis lui est échu depuis, la procédure n'est pas terminée, la bataille juridique est toujours en cours. Et il y a un enjeu quand même autour de cette procédure qui est de créer un précédent parce que l'État a mal vérifié le dossier des miniers, a laissé passer le fait qu'ils allaient détruire une zone Natura 2000 et qu'ils n'avaient pas demandé de changement de cet ordre-là. Donc il y a une bataille qui continue sur ça pour essayer de faire condamner l'État dans ce cas-là. Mais aucun des permis déposés dans la première vague de 2014 n'a été accepté. Ça a impliqué la montagne d'or en Guyane, hein, dont on avait beaucoup entendu parler, et une série de permis en Bretagne, Ariège, Haute-Vienne, je dois en oublier, et dans l'Aude, dans l'Hérault, enfin voilà. Les stop-mines se sont créées en 2013, par opposition à en particulier une société minière, Variscan, qui faisait du barouf un peu partout, et avec quelques manifs qui avaient donné. Voilà, enfin, quelques manifs, dont une au siège du PDG qui avait donné et si on allait creuser près de chez toi, est-ce que tu serais content quoi. Enfin, c'était un des gros mots d'ordre à ce moment-là. À ma connaissance, pour les stop-mines, donc c'était structuration en assaut, organisation de manifs, action de sensibilisation, recours juridique et deux plastiquages, revendiqués l'un par les Bretons, l'autre non revendiqué. L'un de du siège de la société Variscan Mine à Orléans, et l'autre sur le carreau de l'ancienne mine de Salo, les locaux qui étaient mis à disposition de Variscan aussi. La deuxième vague, elle a commencé en 2022, ce qu'on évalue, elle nous semble plus agressive. Elle est caractérisée par des permis de recherche et d'exploration extensifs, qui sont plus seulement concentrés sur les sites des anciennes mines, assez petits, quelques dizaines de kilomètres carrés, mais qui cette fois concernent des surfaces de 300-400 kilomètres carrés, 300 kilomètres carrés pour Taranis en Bretagne, 400 kilomètres carrés en Haute-Vienne pour le Nouveau-Bournex, 100 kilomètres carrés en Ariège pour le permis montagne ariégeoise, 2000 kilomètres carrés pour l'Allier.
Allier, puis Dôme.
Et puis Dôme. Voilà. Ça correspond aussi à de nouveaux moyens de prospection, à savoir de la géophysique aéroportée, qui nous envoie des hélicos qui font la géophysique sur 500 mètres de profondeur de sol, hein, juste par hélico, qui permettent de localiser grossièrement quelques zones. Après, ils vont vérifier par des carottages. Et au niveau législatif aussi, elle nous semble plus sérieuse parce qu'elle s'accompagne au niveau européen de la mise en place de la directive pour les métaux critiques, le Critical Raw Material Act, qui a été activé en 2024, de la refonte du code minier français, de la mise à jour de l'inventaire des ressources minérales françaises par le BRGM, qui au passage avait aussi fait la géologie d'une grosse partie du continent africain, donc, voilà, et la création de gros projets de recherche, comme un projet qui s'appelle Sous-sol bien commun, qui a plusieurs axes, 71 millions d'euros alloués par l'Agence nationale de la recherche.
Millions.
Et l'un des trois axes, qui draine 16 millions d'euros, c'est pour l'acceptabilité sociale de la mine. Donc c'est un boulot interaction géologie, sociologue. Comment s'est passée la lutte en Guyane en particulier, mais pas que. En fait, Échassière est très observée aussi. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour leur promettre que les projets vont avoir un impact positif sur le territoire. En particulier, la directive pour les métaux critiques, elle introduit la notion de projet stratégique. Elle tente d'évaluer la fragilité des chaînes d'approvisionnement, ce qui suppose pas mal aussi de fantasmes ou de projections géopolitiques, parce qu'en fait, il n'y a pas de scientificité derrière la fragilité de la chaîne de production. On va évaluer que là, il y a un stress géopolitique à un endroit, pouf, ça en rajoute un métal critique, on peut l'enlever 2 mois après, enfin, il n'y a pas de liste établie, voilà. Donc ça vise à établir ce tact-là, des listes de matériaux stratégiques d'une part, critiques d'autre part, et à augmenter les capacités d'extraction, de transformation, de recyclage de l'Europe, ça c'est ce qui est annoncé, pour atteindre 10% des métaux utilisés en UE produits sur sol européen. 25% des métaux utilisés en UE recyclés sur sol européen, etc. etc. Suite à l'adoption de cette directive, en mars 2025, a été annoncée une liste de 47 projets critiques à l'échelle de l'Union européenne, qui ont une enveloppe à se partager, les 47 projets de 22 milliards d'euros au total. Et donc il y a d'une part le pactole à se partager, et d'autre part des procédures accélérées pour tous les projets qui sont fléchés critiques. Et Échassière en fait partie. Et on pourra peut-être discuter de ça, mais les diverses demandes de permis en France... Dans certains cas, notamment en Haute-Vienne, on a l'impression qu'ils veulent être reconnus critiques par l'UE, parce qu'il y a un certain nombre de choses à cocher pour pouvoir être reconnus critiques, chercher des matériaux critiques en l'occurrence, mais pas uniquement, aussi montrer qu'on a tout fait pour l'acceptabilité sociale de la mine au niveau local. Et donc ils lancent des audits territoriaux très très personnalisés, en 1-1, face à face, entre un psychologue et les personnes interviewées. Enfin, c'est vraiment une privatisation du débat public qui est assez flippante. Et on se demande si ce processus-là n'est pas pour cocher une case et être reconnu projet critique. Parce que particulièrement en Haute-Vienne, ils sont très agressifs sur la mise en place du projet. Il y a 40 plateformes qui ont été construites pour les sondages géologiques. On en est juste au stade de l'exploration. Enfin, voilà, ça fait un truc dont on a l'impression qu'ils veulent aller plus loin, vraiment, sérieusement. Contrairement à la première fois, je veux dire. Et donc, a priori, le fait d'avoir Échassière est peut-être une première vague de résistance, celle d'il y a un peu moins de 10 ans, a déjà fait évoluer les modes de consultation publique. À savoir, ils se font plus dans des salles, en public. On n'a pas moyen d'aller bloquer des salles. Là, c'est par mail. Consultation qui a lieu en Haute-Vienne en ce moment, c'est par mail. Chacun derrière son PC a envoyé des questions. Encore une fois, pour la Haute-Vienne, là, c'est des projets d'exploration et pas d'exploitation. Donc le stade est moins avancé que Échassière. En France, sur les projets qui ont été fléchés critiques par l'Union européenne, plusieurs concernent le recyclage. Et juste pour info comme ça, la plupart d'entre eux donc, sont vus positivement, parce que c'est du recyclage de métaux, donc il y a moyen de récupérer les métaux nécessaires. Voilà. Sauf qu'en fait, ça va être des usines Céveso de numéro on ne sait pas combien. Et il y en a un qui a brûlé en Aveyron, qui a emporté dans l'atmosphère 900 tonnes de batteries au lithium il y a moins d'un an, en février, qui se sont auto-embrasées par concentration en fait, de tous ces batteries au même endroit. Parfois on a l'impression que ces projets, l'important c'est pas qu'ils voient le jour, donc malgré ce qu'on peut dire pour Échassière ou pour la Haute-Vienne, mais par exemple pour Salo ou pour la Bretagne, on a l'impression qu'ils jouent au poker, que ce qui est important c'est de réussir à... ce sont des petites compagnies, des minors qui cherchent à raconter un storytelling, à vraiment avoir une histoire à raconter sur les gisements sur lesquels elles sont assises, pour pouvoir revendre cher leur droit d'exploiter. Le même principe qu'une start-up. Parce qu'en fait, c'est pas elles qui auront les moyens d'exploiter tout ça, c'est certain. le but, a priori, de ces toutes petites compagnies qui sont là en train de s'activer un peu partout, a priori, c'est de faire du fric. Quand on voit les projets et la façon dont ils sont construits, les premières pages sont pour montrer la respectabilité de ces compagnies. En l'espèce, les CV des investisseurs et les gisements qu'ils ont réussi à trouver, le nombre de milliards qui sont faits. C'est ça qui est marqué dans les premières pages, en fait. C'est un tel a bossé pour telle compagnie et a revendu tels endroits et a réussi à amasser je ne sais pas combien de milliards parce que trouver une mine d'or ici ou là. Ce que ça génère, c'est tout un discours qui est... nous avons le plus gros gisement de lithium de l'Europe, ou on a le plus gros gisement de tungstène de l'Europe, ou bien on a un très gros gisement d'or, regardez telle pépite que vous pouvez observer là-bas au muséum, elle vient d'ici. Enfin, ça donne ce genre de choses qui sont directement des choses qu'on doit contrer dans le discours quand on discute avec les gens qui ont juste vu les articles dans la presse qui racontent ça. Et peut-être là, on peut faire un petit focus sur Imerys, parce que nous, on a affaire en Haute-Vienne ou en Ariège à vraiment des petites compagnies, des minors. Pour le coup, Imerys, c'est ni une minor, ni une major. C'est pas encore une grosse entreprise qui est capable d'exploiter.
Alors, c'est quand même une multinationale,
ouais.
Mais qui n'est pas du tout orientée mine. Elle n'y connaît rien dans la mine. Alors, ce qu'ils nous ont vendu, c'était des spécialistes de la mine. Ils sont à la rigueur spécialistes des carrières, donc pour des agrégats, du kaolin et tout ce qu'on veut, mais les mines, ils n'y connaissent rien. Et dans les derniers papiers qu'ils nous ont donnés, il y a une sous-traitance pour la mine, qui n'était pas à l'origine quand même. Et donc, moi, à un moment, je m'étais un petit peu renseigné pour savoir qui était Imerys, donc c'est une multinationale, d'accord, mais elle est spécialisée dans la vente de matières premières, et pas du tout ni dans les carrières, ni dans les mines, quoi. Donc, eux, c'est plutôt financier. Mais ils gardent quand même, parce qu'ils sont propriétaires des terrains à Échassière, où ils exploitent le kaolin, et donc, étant propriétaire, il y a quand même des difficultés à pouvoir rentrer à l'intérieur, quoi, pour dire des choses. Et donc, eux, leur but, c'est même pas d'aller revendre la concession, c'est de l'exploiter, mais avec des sous-traitants. Et de revendre le lithium, entre autres, parce qu'il y a d'autres minéraux et métaux qui vont sortir, du niobium, du tantale, enfin tout un tas de trucs. Et donc, eux, leur intérêt, c'est de le vendre sur les marchés au plus cher. Et quand on leur dit, oui, mais est-ce que vous pouvez nous assurer que votre hydroxyde de lithium, ça servira aux batteries françaises, voire européennes, ils disent, ben nous, non, c'est le marché qui décide. Donc déjà, quand ils disent l'indépendance de la France ou de l'Europe avec nos mines propres et tout, et écolo, c'est complètement du pipeau. Quoi. Voilà.
Et ben voilà, les arguments des miniers, c'est en général ça, la souveraineté à toutes les sauces, c'est bullshit, mais ça porte quand on discute avec les gens, en fait. La mine ici plutôt qu'ailleurs. Bon, après, on reviendra sur les contre-arguments qu'on essaye de construire. Hein, mais donc la mine ici plutôt qu'ailleurs, au choix, elle vient comme en remplacement des vilaines mines au Congo ou chez les Ouïghours. Ou alors, elle vient pour assumer la pollution environnementale ici. Donc c'est soit parce que là-bas, il y a une grosse exploitation, ici, il y aura moins d'exploitation, soit pour assumer cette pollution chez nous, vu que c'est pour nos batteries. La mine propre durable, bon voilà, ici il y a plus de normes, on va mieux les gérer. Ils vendent le recyclage des déchets des anciennes mines, et ça c'est un contre-argument qu'on a parfois de dire déjà recyclez vos déchets, mais en fait ça fait partie quand même du montage économique en règle générale, c'est-à-dire qu'il y a des stériles miniers dont les teneurs à l'époque étaient très basses mais qui maintenant sont complètement rentables, ils sont abandonnés à 5-6 grammes d'or par tonne de roche, bah maintenant ça sert à quelque chose d'aller récupérer ça, c'est déjà extrait, c'est déjà à l'extérieur. Donc c'est un argument qui, quand on le ramène dans les consultations publiques, pouf, en 30 secondes ils intègrent et ils intègrent au bazar. La mine nécessaire hein, pour sauver la planète, pour décarboner, pour la transition numérique, pour l'électrification. Ils vendent des améliorations de techniques d'extraction. Censément, on ne va plus utiliser de cyanure pour récupérer l'or. Hein. On fera de la centrifugation. Imagine les grosses centrifugeuses. Et puis, c'est tout. Bon, en fait, en vrai, ça permet de récupérer qu'un pouillème d'or. Donc, à la fin, c'est sûr, ils le foutent dans des bacs pleins de cyanure. Mais... Et puis, l'argument de l'emploi. qui est agité, souvent dans des bassins ouvriers qui ont connu ça, qui ont connu le fait qu'il y avait des gens qui travaillaient. Une des choses auxquelles on s'attrape avec les stop-mills, c'est de savoir si vraiment il y avait plus d'emplois à ce moment-là ou juste s'ils ont changé de nature depuis. Mais ça, c'est pour la discussion avec les gens. Et puis, donc Yvan, ce que disait Dom tout à l'heure, le restockage des déchets, mais aussi que les mines soient souterraines, qu'elles ne soient pas à ciel ouvert, parce que l'acceptabilité sociale de la mine à ciel ouvert, elle est encore très faible. Alors que la mine souterraine, on la voit pas, elle est plus acceptable, et puis ça fait des trous dans lesquels on va pouvoir mettre des déchets, ce qui est impossible une fois qu'on a décompacté, on ne peut pas tout remettre, mais ils le vendent comme ça. Et du côté des gens, on s'attrape aux arguments du style de toute façon il y a besoin de mine pour ton smartphone, donc pourquoi t'es contre, quoi. Parce qu'on oblitère l'absence de choix que les individus ont dans le déploiement des infrastructures numériques ou électriques. En termes de contre-argumentation, sur l'argument de la souveraineté, ce que nous on peut répondre, c'est que les alliages sont si complexes que la souveraineté ne veut absolument rien dire. Extraire du lithium ici, t'en feras quoi? T'as quand même besoin du cobalt qui vient de la RDC. Et au contraire, pour aller un peu plus loin sur cet argument, c'est que ouvrir des mines ici augmente la pression sur les ressources partout sur la planète. Parce que plus on va extraire de lithium quelque part, plus ça permettra la possibilité d'aller en faire des alliages, et donc ça va augmenter l'extraction à d'autres endroits de la planète. Donc ça, c'est un argument qu'on arrive à mobiliser contre cet argument de les ouvrir ici et de la souveraineté. La mine... Oui, et puis comme la plupart du cortège métallique n'est pas présent en Europe, ça nécessite, selon eux, pour les histoires de souveraineté, des accords avec divers pays. Et donc dans les projets critiques de l'UE, il y a quand même 13 projets, un quart, qui sont à l'extérieur de l'Europe, qui sont au Groenland, qui sont en Afrique à plusieurs endroits, en Serbie sur le continent européen. Voilà. Sur le recyclage et la promesse de dépollution des sites, ce que je disais tout à l'heure, on manie avec précaution, mais c'est un truc qui revient quand même souvent. Dans les arguments qui portent le plus, c'est la pollution, l'usage et la pollution de l'eau. Le fait que ça pollue des bassins versants complets et qu'on est connecté des sources de l'île jusqu'au bassin de la Garonne, ou des sources du Salat justement à la Garonne aussi, ou... de l'Allier et du château d'eau de l'Allier sur tout le...
Ça touche à la fois le bassin de la Loire, ça touche aussi la Gironde.
Voilà.
Donc ça touche les deux côtés.
Donc ça, comme dans d'autres luttes, à savoir Stop Micro et compagnie, cet argument de l'eau, il porte pas mal. Et après, les questions des usages de la mine. Ils nous vendent des mines pour la transition. On sait bien qu'elles vont servir à plus de numérique, plus d'électrification, plus d'armement, plus de création de valeur tout simplement, et que c'est surtout un déni du fait de pouvoir décider quel est le projet du territoire dans lequel on vit. Et donc pour eux, comme l'enjeu c'est de recréer, si jamais ils vont jusqu'au bout, des chaînes de production complètes sur un territoire, avec les usines de concassage, les usines de traitement et la production métallique sur place, c'est vraiment un projet à l'échelle d'un territoire. Je dis ça parce que souvent, dans les argumentations, en Ariège, il est question du fait d'aller dans les vallées concernées par l'exploitation. Et en fait, de quoi les villes autour, Pamiers ou Saint-Géron, seront concernées aussi, parce que c'est elles qui vont se prendre les endroits où il y aura les usines avec les stockages de déchets presque les plus polluants, enfin ceux qui vont contenir les solvants, qui vont récupérer les motos, quoi. Ceci dit, on a aussi d'autres arguments du genre mine ou tourisme, il faut choisir. Ça fait pas rêver non plus, parce qu'en termes de choix de territoire, si on doit choisir entre l'un et l'autre, on n'est pas sorti le plus des ronces. Après, un autre argument qu'on utilise, c'est utiliser les pollutions de l'après-mine, déjà à gérer. Vous allez vraiment nous en rajouter, il y a déjà tout ça à gérer. Mais là encore, on est en défense. Peut-être que ça, c'est un axe d'attaque, justement, je sais pas, positif, d'aller demander une réhabilitation. C'est en tout cas une des pistes qu'on pourrait dessiner. Et quand on contre-argumente sur l'emploi, c'est un des trucs les plus durs. on contre-argumente sur l'emploi dans des territoires où il n'y a pas d'emploi. On dit que c'est des emplois pourris qui empêchent plein d'autres gens de vivre dignement sur un territoire. Mais en fait, on n'a pas, voilà, pas grand-chose de mieux à proposer. Ce qu'on essaye de dire, c'est que ça va en détruire, qu'en fait, il ne va vraiment pas y en avoir plus, voire y en avoir moins, parce qu'il n'y aura plus ni l'agriculture ni le tourisme. Encore une fois, cette agriculture et ce tourisme, ça ne fait pas rêver non plus. Voilà. Et une autre dernière réflexion sur tout ça, c'était les aspects internationaux. Même si on atteint les objectifs de réouverture des mines, dont on souhaite qu'elles n'ouvrent pas, on n'aura jamais que 10% de la production nécessaires en métaux sur le sol européen qui seraient faites ici, c'est-à-dire 90% des métaux nécessaires à l'Europe qui seraient ailleurs, donc un pouillème de ce qui est produit dans le monde, donc c'est que dalle. Et quand on regarde les situations au Kivu, en République démocratique du Congo, ou ce qui se passe en Ukraine avec la négociation pour la reconstruction en échange de l'accès au sous-sol, ça donne le vertige. Et une des questions qu'on avait aussi envie de poser, c'était la possibilité d'avoir un internationalisme conséquent. Quand on dit ni ici ni ailleurs, comment faire autre chose qu'une profession de foi? Et parce que, enfin, voilà, à titre totalement personnel et militant, je suis extrêmement mal à l'aise en disant ce genre de truc, parce que voilà, parce que derrière, j'aimerais bien qu'on ait des moyens conséquents d'échange de soutien avec ces endroits-là. Voilà. L'État.
C'est pas fabuleux, mais
c'est bon. Pas fabuleux.
Donc on est venu aussi pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider, quoi. On est quand même dans la merde, quoi. Si vous avez des bonnes idées, c'est maintenant, quoi.
Ouais, des avis sur les arguments, sur le travail en particulier. Ouais. Et on a Gab qui est là, qui pourra peut-être nous parler du bout de la chaîne à un moment donné, à savoir des luttes sur le photovoltaïque. Mais peut-être on...
rencontre entre l'Alter Tour et Stop Mine dans 87.
Tu parles fort.
Oui.
Il faudrait parler pour eux.
Oui, d'accord. Et donc, à un moment donné, il y avait une discussion par rapport à essayer de renforcer le combat au niveau des agriculteurs. Parce qu'il y a eu quand même une particularité sur une manif à Saint-Thierrier, où il y avait tout, enfin des représentants, il n'y avait pas massif, mais il y avait des individus de la FNSEA, de la coordination rurale, et il y avait plus massivement la Confédération paysanne. Donc, parce que les agriculteurs locaux, même s'ils sont réac et tout, ils se sentent menacés par ces projets, quoi. Donc ça, c'est... Disons, c'est une des possibilités d'essayer de s'appuyer sur certains pour que leur syndicat agricole prenne position complètement contre eux. Voilà.
Je vais bien prendre les tours de parole.
Un des questionnements qu'on a aussi, je crois, c'est pour faire écho à ce que vient de dire Alain. c'est que entre se retrouver entre militants avec un discours hyper net sur l'usage des mines, le réarmement, le numérique, mais finalement ne pas réussir à communiquer avec la population locale, rurale ou néo-rurale, pour par exemple le cas de l'Ariège, une assemblée de lutte qui est profondément militante, mais qui n'est pas au contact des gens, qui ne les côtoie pas, qui ne sait pas comment les approcher et compagnie, et qui donne une manif à 400, allez, presque entre militants. Le cas de la Haute-Vienne, où on a au contraire ces velléités d'aller chercher beaucoup plus large, et qui donne un discours qui est justement mine au tourisme, il faut choisir, ce genre de choses où on s'y retrouve moins aussi. Enfin, on n'a pas de critique générale de la production, on a. Voilà.
Alors, est-ce que vous ne créez pas des ZAD ? C'est un truc qui est assez efficace quand même pour les emmerder. Hein.
Quand tu as des permis sur 400 km², c'est voilà. Très compliqué. Hein.
Là, c'est la zone dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y avait anciennement 4 petits permis de recherche sur des petites zones. Et puis, ils ont créé un énorme truc. C'est par rapport au département, ça fait peut-être un quart du département. Oui. Donc pour faire une ZAD, c'est un peu difficile à occuper. Quoi.
Et pour les chasseurs, ils sont propriétaires du terrain. Donc faire une ZAD dans une propriété privée, ça commence à poser des problèmes. Quoi. Et en plus, on est 3 Pékins, 2 tendus, donc qu'est-ce que tu vas aller faire?
Mais après toutes les années, ça très peu de monde, il y en a certaines qui grossissent notre nom.
Oui, mais généralement, c'est des militants.
Oui.
Là, c'est les personnes de Stopping 03, ce n'étaient pas des militants, les gens du CRU. Donc, ils sont connus déjà des gendarmes. On a fait quelques actions pendant le passage du Tour de France. Les gendarmes, ils étaient chez tous ceux qui étaient à Stopping. Donc ils sont connus. Le moindre truc que tu fais, tu te retrouves en prison.
En fait, comme vous avez dit, ils sont fous aussi.
Ouais.
Mais attends, il n'y a pas de dialogue là.
Non, enfin.
Qu'est-ce qui prend le. Le président parole.
Oui, un peu pour finir, quand tu parlais des agriculteurs. Mais
vous vouliez parler plus fort, qu'on sache qui c'est qui parle, parce que moi je
parle. Oui, quand tu parlais des agriculteurs, autant la confédération paysanne, on peut leur faire confiance. À peine ça, il suffit qu'il leur donne un peu de fric et tu les verras plus.
Oui, mais. Non, mais ce que je disais, c'était pas. C'était pas la FNSEA en tant que telle. C'était des individus dans la FNSEA qui se sentent un peu menacés en tant qu'exploitants, enfin sur leur exploitation, parce qu'ils sont à proximité, mais c'est pas le syndicat en lui-même. Et justement, c'est pas sûr qu'ils arrivent à faire réagir leur syndicat, c'est évident. C'est difficile.
Philippe, qu'est-ce qui existe à l'heure actuelle en termes de coordination intersite ou qui n'existe pas et qui serait inventée et qui éventuellement permettrait de répondre à un certain nombre des questions qui sont posées sur l'argumentaire, la sensibilisation, l'élargissement, l'application par des échanges d'expérience. Est-ce que ça se débat, ça traverse un peu les différents collectifs?
Serge? Oui, c'est seulement une question politique que si vous êtes capable de répondre sur. En gros, c'est quoi les méthodes qu'on cherchait quand tu disais sur la directive européenne, etc., hormis sur la cité, tungstène, lithium et compagnie, pour quels usages, et c'est quoi l'automatisation qui est prévue des projets miniers, notamment en France, c'est-à-dire en gros l'argument de l'emploi, les vrais, faux, c'est quel type d'emploi, en quelle quantité, avec des gens sur place. Bon, ouais, un peu plus de précision technique si vous avez.
Est-ce qu'on répond à ces deux questions?
Oui.
Tu réponds pour les liens interconnectifs?
Oui, bah, un interpolitique qui s'est créé contre la multinationale Imerys. Donc il y a plusieurs sites Imerys en France, il y en a à Lomel, il y en a dans le Cantal avec la NARF de Mouillade, il y a Thiviers,
il y a le Lot. Et
ça c'est la Périgord.
Thiviers d'Ordogne, le Lot.
Voilà, donc il y a 4 ou 5 sites, dont les Chassières bien sûr. Et il y a même un site Imerys que personne ne parle actuellement, mais c'est Montrebas, qui est en Creuse, où il y a aussi quelque chose d'Imerys. Et ils attendent la construction d'une usine à Montluçon pour pouvoir extraire aussi du lithium à Montrebas. Pour l'instant, ils extraient autre chose que du lithium, mais ils vont se servir de ça pour faire. Et pour les métaux, il faut regarder sur le truc européen, là, l'intérêt majeur. Tu as toute la liste des métaux qui rentrent dans les trucs critiques. Et tu as un match pas mal, le tantal, mais tu n'as pas tous ces métaux-là en Europe. Il n'y a pas tout. Voilà.
C'était quoi ta question ? La liste des métaux ? Non.
Oui, ça vaut pas une liste. Non, tard, c'était juste pour comprendre un peu plus sur l'usage et les enjeux industriels sur. Je sais pas si c'est un vrai argument qui est utilisé, ce truc de lien avec la guerre qui est souvent. Il faut une souveraineté nationale ou européenne, etc. Quand il y a des perspectives de conflit qui se rapprochent et de réduire la dépendance, tu comprends l'argument. Est-ce que c'est une réalité ? Toi, tu avais l'air de dire plutôt non.
La plupart des métaux qui sont listés aux métaux critiques de l'UE, c'est les métaux du numérique ou de l'électrification. Oui. Quand tu regardes les usages, c'est ça. Il y en a quand même un ou deux, genre le tungstène, ça sert aux durcisseurs, aux alliages, ça sert au numérique aussi, au numérique, oui, aux vibreurs, aux machins comme ça, mais ça sert surtout dans les alliages comme durcisseurs. Obus, char, pointe de bâton de montagne. C'est le même truc. Donc, je sais pas si c'est une réalité ou pas, mais quand tu regardes les usages, en fait, ça colle avec les histoires de transition énergétique dont on ne veut pas, mais ça a l'air de coller avec ce truc-là, réellement.
Et de réarmement aussi. Il y a beaucoup de métaux qui servent à réarmer. Ou pour la bombe nucléaire aussi, avec le lithium, pour le tritium. Avec Civo, je crois, qui vient travailler avec EDF et tout. Donc, il y a quand même de l'armement à l'intérieur. On est en plein dans l'actualité, quoi.
Et sur l'or, pour compléter, l'or est utilisé de façon infime dans les produits techniques d'aujourd'hui. L'essentiel de l'or, ça reste du stockage financier de lingots et de la bijouterie.
Ça part en or, donc c'est... à 100%.
Et à la question de Philippe ?
Et à la question de Philippe, donc il y a Imerys pour l'intercollectif contre les Imerys, qui est plutôt balbutiante. Il y a eu une première réunion cet hiver et il y en aura une seconde là à Chassière. Et vous, l'initiative que vous faites là fin du mois participe quand même dans l'Allier à créer cette rencontre entre collectifs.
Enfin, collectifs, voire avec la part nationale. Donc on a des liens avec le Portugal, il y a ceux de Paris qui ont des liens avec l'Amérique du Sud. Donc on essaye d'avoir, et puis on a des liens aussi avec la RDC, avec Génération Lumière de Lyon. Donc on a certains liens, si tu veux, mais bon, ça reste quand même anecdotique par rapport à ce qu'on s'affronte, quoi. Mais bon, c'est un début, il faut commencer par quelque chose. Donc, voilà. Et donc, cette action qu'on mène le 25, 26, 27 février, juillet à côté des Chassières, ça rentre dans une action qui se veut internationaliste. Donc, il y a aussi des liens avec la Serbie. Et donc, chacun, dans son coin, avec les moyens qu'il a, fait des actions pour qu'on puisse montrer que, dans l'ensemble, on essaye de faire quelque chose au niveau international. Bon, c'est un début, c'est peut-être pas encore le mieux, mais il y a quand même l'idée, quoi, de faire, pas tout seul dans son coin, et essayer de développer un peu plus large, quoi. Et donc avec le Portugal, on est en liaison depuis quasiment la création de l'association. Puisque le Portugal, c'est aussi la plus grosse mine de lithium d'Europe. Enfin, la Serbie, c'est aussi la plus grosse mine de lithium de l'Europe. On nous vend comme ça, à chaque fois, c'est la plus grosse. Et, voilà. Donc on a plein de plus gros dans l'Europe.
Il y avait la question de l'automatisation que Serge a posée aussi, le nombre, par rapport au nombre d'emplois.
Alors, je vais parler des chassières, parce que c'est le projet qui est le plus avancé actuellement. Et on nous a vendu des engins électriques quoi, à l'intérieur de la mine. Quoi. Et quand tu connais la grosseur des engins dans les mines, l'électricité, je ne suis pas sûr que ça fonctionne bien. Quoi. Donc on te vend un truc comme ça pour que ça soit le plus écologique possible, avec le moins de nuisances possible. Et actuellement, on est dans la phase pilote. Donc ils sont en train de construire des usines pilotes avec un 30e ou un 90e de ce qu'ils vont faire en exploitation industrielle pour sortir du lithium. Et donc, ils sont en train d'étudier la manière dont ils vont appliquer. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire. Parce que quand tu fais des usines pilotes, c'est qu'au niveau industriel, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu ne connais pas. Donc, donc on en est là. Et ils sont, par exemple, ils te disent, bon, c'est que des engins électriques, un maximum, machin. Et quand tu regardes dans les papiers qu'ils te donnent, tu vois qu'il y a quand même de grosses dépenses en diesel. Quoi. Et donc le diesel, généralement, c'est pour leurs gros engins de mine. Quoi, qui... Et puis il y a un petit peu de dynamite, un petit peu de tout ça. Quoi. Mais au niveau électrique, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste peut-être le chariot qui ramène les minerais à l'extérieur qui sera électrique. Quoi.
Et quel type d'emploi ils proposent ? Et quel nombre ? Ils donnent des chiffres ?
Oui, au départ c'était 1000 emplois directs et puis je ne sais pas combien d'indirects. Après c'était un petit peu moins et encore un petit peu moins. Et quand tu regardes par exemple Imerys, ils ont je ne sais plus combien de centaines de sites dans le monde. Et quand tu fais un rapport entre les sites et le personnel qu'ils ont, c'est pas plus de 40 quoi, par site. Donc, voilà. Et actuellement, ceux qui travaillent pour la carrière de Caroline, c'est entre 30 et 40 personnes qui travaillent. Mais ils nous disent qu'ils vont continuer à exploiter Caroline pendant qu'ils vont faire la mine souterraine. Donc ils ne vont pas faire, parce qu'on leur dit, si vous créez 40 emplois pour la mine, vous arrêtez les 40 emplois du Caroline. Non, on va continuer. Donc, tu vois, ils te racontent ce qu'ils veulent te raconter. Donc on ne sait pas exactement combien il y aura. Et en plus, la plupart des gens de l'Allier, si leurs grands-parents étaient mineurs, ou voire leurs parents, eux, ils ne sont pas mineurs. Quoi. C'est quand même un métier, quoi, tu ne l'apprends pas comme ça. Donc on nous vend en disant, oui, mais vous inquiétez pas, on va ouvrir des écoles pour former les gens. Quoi. Voilà.
C'est quoi comme espace ? C'est des régions peuplées, espace agricole. Comment ça se dissémine dans cette région ?
Cette région, c'est plutôt forestier, là, puisque c'est la forêt des Collettes qui fait 2000 hectares, classée Natura 2000, SNEF 1, SNEF 1, SNEF 2, il y a toutes les catégories. Mais où ils ont fait leur carrière de cavalin, c'est hors Natura 2000. Et ce qu'il y a tout autour, c'est plutôt de l'élevage. Là, on est plutôt dans un genre de bocage, quoi. Donc, il n'y a pas de grandes cultures, il n'y a pas tout ça. Où les cultures qu'il y a, c'est pour nourrir les bestiaux.
Vienne, c'est...
Sur le sud de Vienne, c'est de l'élevage. Culture fruitière des pommes aussi beaucoup et puis t'as des petites villes aussi avec des productions locales bon, puisque Saint-Thierrier c'est quand même 5000 habitants bon, voilà. Et par contre là il y a eu un incident amusant je sais pas qui est-ce qui l'a trouvé le truc, il y a eu une déclaration du patron canadien qui est le vrai patron de la société Aquitaine, qui est la maison mère de la société locale, qui est, voilà, et qui a déclaré que bah, c'était facile hein, de s'installer là-bas, puisque c'était un désert, qu'il n'y avait pas d'habitants, qu'il n'y avait pas aucune culture riche, et que bon, il fallait 1h30 pour aller à la ville la plus proche. Et donc il a fait une déclaration très méprisante finalement, ce qui a fait réagir le président de la communauté urbaine de Limoges, disant bon ben voilà, non, en Haute-Vienne on a plein de richesses, on est en pointe dans les céramiques, on est en pointe dans les traitements des eaux, etc. Et faut pas nous prendre pour des ploucs, et si vous voulez vous installer, faut nous traiter poliment et nous respecter. Voilà, c'était assez marrant. Mais enfin, c'est vrai ça exprimait bien leur état d'esprit, disant bon bah c'est des ploucs, ça va être facile de s'installer.
Je pose la question parce que quand il y a eu des histoires des gaz de schiste, et donc les copains avec lesquels qu'on voit en Ardèche, et ainsi de suite. Ça a suscité tout de suite des remous. Et toutes les sociétés de chasse ont vu le nombre de permis demandés grimper en flèche. Donc il y a eu une réaction à ce niveau-là, tu vois, qui a alerté justement vers les préfectures et tout ça. Et bon, alors évidemment, les gens étaient mobilisés, hein, tu avais des panneaux partout et tout ça. Et beaucoup craignaient parce que c'était aussi leur villa à 300 000 euros, je ne sais pas quoi, qui était en jeu. Hein, donc les petits propriétaires aussi s'associer à ça.
Oui, oui, parce qu'il y a un peu de ça aussi. Il paraît que Guillaume Guérin, il a une maison. Ils sont menacés.
Et ouais, l'Ariège, c'est assez surprenant aussi. Enfin, ce qu'il y a... Le terme n'avait même pas été déposé. On se retrouvait avec une assemblée à 150 personnes. Enfin, il avait été déposé, mais il n'était même pas officiellement annoncé que l'assemblée prenait déjà. Tu vois. Et ça interroge un peu de se dire qu'ils relancent un truc dans un bassin où ils savent qu'il y a pas mal de résistance, où ils se sont déjà pris un incendie sur le coin donné quelques années auparavant, tu te dis la contestation elle part déjà comme une flèche. Et localement, dans les vallées, par contre, pour le coup, il n'y a que dalle de monde. Le village avant Salo, il y a 14 personnes. Et il y en a 80 dans le village d'après. Donc, là, tu es vraiment sur des zones moyenne montagne, quoi.
Si je peux me permettre, mais le problème c'est que c'est des vallées.
Tu parles vite, fort.
Pardon, c'est que c'est des vallées, c'est très très étroit. Et donc les deux camions ne peuvent pas se croiser. Il y a tel endroit où ça ne peut pas se croiser. Alors, ils vont faire une usine de. Le projet c'est de faire une usine de traitement Céveso à Saint-Giron. Déjà pour aller à Saint-Giron avec les camions, c'est déjà l'enfer. Alors, effectivement, les villages ne sont pas beaucoup peuplés. Mais par contre, c'est une violence terrible, quoi. Et franchement. Et c'est pas que le salaud, parce que dans le projet, c'est bien plus grave que ça. C'est qu'en fait, ils ont déjà repéré qu'il y aurait un filon qui va jusqu'à 200 km. C'est-à-dire que ça va toucher 4 villages, en fait. C'est plusieurs villages. C'est aussi pour ça qu'ils ont réagi beaucoup.
Moi, je voulais faire un petit complément là sur par rapport à ce que tu disais au Portugal, que je connais un peu. Les photos qui sont là-bas, c'est des photos qu'on a prises. On a fait un reportage sur ce qui était à l'époque la plus grosse centrale photovoltaïque dans le sud du Portugal. Donc là, ça a commencé en 2017. Et en fait, voilà, on observe un peu les mêmes méthodes, c'est-à-dire que ce sont des zones qui sont complètement désertifiées, et une grosse exode rurale au Portugal. Donc toutes les nouvelles générations sont parties dans les villes. Donc même les vieux sites où il y avait encore de l'agriculture paysanne disparaissent. Et donc là, c'est des zones où il n'y a pas du tout de résistance, en fait. Il n'y a pas de collectif qui se monte, c'est très compliqué. Et donc il y a ce parallèle qui se fait avec aussi une explosion des demandes d'exploration minière au Portugal, parce que tu disais que c'était, c'était une des plus grosses réserves de lithium européennes. Donc il y a 2-3 ans, elle était ciblée comme la plus grosse réserve européenne et la 8e mondiale. Donc il y a la mine la plus connue, c'est celle de Barroso, avec Savannah Resources qui sont sur le coup depuis un petit moment. Mais en fait, quand on observe les demandes d'exploration, ça concerne énormément de zones dans le pays. Alors, ils n'ont pas trop ciblé les zones côtières, qui sont les zones les plus touristiques, qui font le Portugal. Voilà, ils sont ciblés par d'autres types de projets, des gros projets touristiques pour des gens qui ont beaucoup d'argent, qui vont s'approprier cette terre. Là, on est plutôt... moi, la partie que je connais le mieux, c'est la partie qui est dans la Garde. Et donc là, bah, cette zone-là où, où j'ai pris les photos, là, c'est, ça, il y a une demande d'exploration de 550 km² qui a été faite. Donc là, plus pour... Bon, je pense qu'ils essayent... ils aimeraient bien trouver du lithium aussi, hein, mais donc là, il y a plein d'anciens sites miniers. Donc là, ils cherchent du zinc, du cuivre, etc. Et là, il n'y aura clairement aucune opposition. Parce qu'il n'y a plus beaucoup d'habitants, tout simplement. Et puis surtout, ils ne sont pas informés, quoi. Donc c'est exactement la même méthode. Et c'est pareil sur ce que tu disais par rapport aux entreprises minores. Là, il y a des sites où on peut bien voir toutes les demandes d'exploration. Il y a beaucoup de petites entreprises halieutiques portugaises. Et après, il y a des gros ogres anglais et canadiens qui sont sur le coup, mais en deuxième vague, quoi. Donc c'est exactement la même méthodologie. Voilà. Sachant que eux, en plus, dans leur... dans le projet, bah, par exemple, de cette centrale, là, ils se sont appropriés les terrains, etc. Pas de collectif pour lutter contre. Et par contre, il y a des projets expansionnistes, parce que là, ils ont le projet de stocker l'énergie produite. Donc, ils veulent agrandir, faire des énormes centres sur site de stockage, donc sur batterie, dans des zones qui sont quand même à haut risque d'incendie. Hein, donc, c'est complètement délirant. Et donc ça c'est aussi dans l'idée de la réappropriation des matières premières au Portugal pour créer des batteries aussi pour le stockage d'énergie. Donc ça c'était un peu un projet pilote et maintenant tous les projets là sont beaucoup plus grands que celui-là avec systématiquement des zones de stockage sur batterie prévues, quoi. Donc là aussi c'est quand même assez, assez délirant et ça se passe dans, dans les zones désertifiées. Et dans certains endroits où il y a un peu plus, où il y a encore l'agriculture, là c'est un peu plus compliqué pour eux, mais c'est pas forcément les zones.
Ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine, sur Nicolas Garrigue, à Montpellier, Canassul, à Toulouse. Donc, bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.